Sud Radio. Prenez la parole, Philippe David.
Le rythme de l'inflation sur un an est resté stable en août en France et se maintient pour le deuxième mois consécutif à un plus haut depuis mars 2012, donc depuis 6 ans et demi, puisque l'indice des prix à la consommation s'est inscrit en hausse de 2,3% sur les 12 derniers mois. Le pouvoir d'achat dépend directement de l'inflation, puisque pour que celui-ci soit maintenu, il faudrait que les salaires, les retraites ou les minima sociaux augmentent eux aussi de 2,3%. Ce ne sera pas le cas des retraites, ni des minima sociaux, ni même du SMIC, et il n'est pas certain qu'il en soit de même pour les salaires. Le pouvoir d'achat va-t-il s'effondrer? C'est la question qu'on va se poser jusqu'à midi et demi sur Sud Radio. Avec nous pour en débattre, Pascal Delima, économiste, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio et Dany Lang, économiste atterré. Bonjour.
Bonjour Philippe, c'est toujours un plaisir d'être avec vous.
Mais c'est un plaisir de vous avoir également. Bienvenue sur Sud Radio. On va commencer avec vous Dany Lang. L'inflation est au plus haut donc depuis 6 ans et demi. On parle toujours quand on fait le budget, et là c'est l'heure du budget pour le Parlement, des prévisions économiques. Est-ce que c'était prévisible ?
Alors je ne sais pas si c'était prévisible. En tout cas, ce que je voulais rappeler, c'est quand même 2,3%. C'est pas un chiffre extrêmement élevé. Hein. On est très proche du chiffre que cible la Banque Centrale Européenne.
On est loin des 14% près de la fin des années 70, début des années 80.
Oui, ou des 30% qui sont actuellement le lot quotidien des Argentins, enfin sur l'année. Et je voulais aussi rappeler que l'inflation, quand les salaires et le pouvoir d'achat suivent, ce qui est la question que vous allez soulever, oui, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que souvenez-vous, l'inflation par exemple des années 60 et 70, c'était souvent une inflation à deux chiffres, et ça a permis en France à toute la classe moyenne d'accéder à la propriété, c'est-à-dire l'inflation profite toujours aux personnes qui sont endettées et érode le pouvoir d'achat de ceux qui ont des avoirs et qui ne les utilisent pas dans l'économie, et des rentiers, surtout des rentiers. Donc en soi, l'inflation, c'est pas un drame, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a des niveaux de dette privée qui commencent à être extrêmement préoccupants. Donc avoir un peu d'inflation, ça veut dire que la dette réelle, c'est-à-dire la dette d'où l'on déduit l'inflation, va un tout petit peu baisser, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que c'est une cause majeure de crise. Mais en tout cas, le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a cette inflation et un pouvoir d'achat qui ne va pas suivre. Si le pouvoir d'achat suivait, si les salaires suivaient, si on revalorisait le SMIC au même niveau que l'inflation, on aurait les autres salaires à proximité du SMIC qui suivraient, et donc le problème serait réglé. Le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui ne va pas dans cette direction-là.
Alors justement, parlons de la politique du gouvernement, Pascal Delima. Parmi les prix qui ont le plus augmenté, les carburants qui ont subi, on s'en rappelle au 1er janvier dernier, une forte augmentation des taxes. Parfois, c'est l'État qui crée de l'inflation ?
Oui, parfois c'est l'État, bien sûr, avec sa politique économique, tout simplement, sa politique fiscale. Il y a eu effectivement les taxes sur les carburants, le tabac, qui représente pas loin de 50% quand même de la hausse des prix au premier trimestre 2018. Et puis, évidemment, il y a la fameuse affaire de la CSG qui a fait beaucoup de bruit, à savoir la hausse de la CSG, tout simplement, qui a été compensée par la baisse des cotisations salariales. Donc tout ça, ça fait finalement, sur le plan administratif, on va dire, sur le plan macroéconomique, une ponction directe de plus de 2 milliards d'euros. C'est quand même 85 euros par foyer. Voilà, tout cela vient bien de la part fiscale, en fait, qui ponctionne une partie des richesses du foyer. Donc c'est l'une des raisons. Alors après, il n'y a pas que ça. Il y a évidemment le pétrole. On peut aussi s'inquiéter des sanctions
contre l'Iran,
bien sûr, parce que
c'est un gros producteur de pétrole.
Exactement. Donc voilà, avoir cette variable énergétique, à mon avis, va être quand même essentielle. Et puis, faut pas oublier quand même aussi quelque chose qui me paraît très important, mais c'est bien aussi d'une certaine façon, c'est que il y a un effet de mode aussi chez les personnes, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette impression que le pouvoir d'achat baisse. Et en réalité, c'est pas toujours lié directement à l'évolution. Alors là, je parle sur un train de plus long qu'un trimestre ou l'année qui vient de s'écouler. Mais sur 15 ans, par exemple, pas évident de dire que le revenu disponible brut a baissé. Et voilà, il y a des effets de mode aussi, parce que là, la part, si vous voulez, des services de base, la part considérée comme des services de base augmente. On consomme plus d'iPhone, les applications, les vacances.
Les abonnements.
Les abonnements, les assurances, voilà, etc. C'est plus uniquement le loyer. Et donc, il y a une impression globale de baisse du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on peut s'inquiéter quand même à très court terme de cette consolidation quand même de baisse de pouvoir d'achat sur le plan macroéconomique et administratif. Et
oui. Justement, Dany Lang, quand on regarde, et Pascal Delima l'a rappelé, les carburants ont fortement augmenté, oui. Mais le ralentissement des prix de l'énergie en juillet a été compensé par une légère accélération des prix alimentaires. C'est l'INSEE qui le dit dans une étude qui est sortie aujourd'hui. L'alimentation, le carburant qu'on est obligé de prendre pour aller travailler, notamment en province, c'est les produits vitaux qui augmentent le plus. C'est pas ça le problème ?
Écoutez, alors j'ai pas vu l'étude de l'INSEE à laquelle vous faites. Vous, oui, justement, je n'étais pas sorti de l'INSEE ce matin, je vous l'avouerai.
Et vous êtes en vacances et je vous remercie d'être avec nous.
Oui, exactement. Ceci explique cela. Alors, je suis assez d'accord avec
Pascal Delima.
De Pascal Delima, oui. Il n'est pas évident que le revenu disponible brut a baissé. Ceci étant dit, il faut voir aussi la répartition du revenu. Hein, on a quand même une tendance lourde ces trois dernières décennies à une augmentation dans le partage de la valeur ajoutée de la part des profits, à une baisse de la part des salaires. Et on a aussi une tendance à l'augmentation des inégalités, c'est-à-dire les gens payés, très bien payés sont de mieux en mieux payés, et puis les gens en bas de l'échelle, les classes moyennes. C'est pas évident, ça dépend à quel décile, c'est-à-dire à quelle division.
En dixième de salaire dans une entreprise.
En dixième de salaire, voilà. Ça dépend où on se situe. Ceci étant dit, effectivement, ce qui augmente, c'est le prix de l'énergie. Et quand le prix de l'énergie augmente, derrière, les denrées alimentaires suivent, puisque il faut aussi les transporter.
Il faut utiliser des engrais qui sont parfois à base de matières premières, comme le pétrole.
Exactement, mais il faut aussi les transporter d'un endroit à l'autre, et c'est aussi, vu la manière dont nos économies sont organisées, les aliments font beaucoup de déplacements. Moi, je trouve que c'est un contresens économique, parce que le pétrole va se raréfier et que on ferait mieux de consommer des produits locaux.
Justement, je vais faire réagir Pascal Delima sur ce que vous venez de dire, qui est très intéressant. Vous avez entendu Dany Lang. Alors, il y a une enquête du cabinet Deloitte qui dit que les salaires augmentent cette année de 2,2% et pour les cadres, c'est même 2,5%. Est-ce que, alors, parce que Dany Lang parlait des différents déciles dans l'entreprise, des 10% les moins payés, par exemple, les 10% les plus payés. Est-ce que pour vous, c'est crédible, ces augmentations ?
Alors là, on est dans les populations cadres d'entreprise. Moi, les tendances que j'ai, les chiffres que j'ai, c'est effectivement une légère hausse tendancielle, hein, vraiment sur on va dire, allez, depuis 1980 jusqu'à 2015, on a un ralentissement de la hausse de la masse salariale dans les pays de l'OCDE. Alors, ça veut rien dire dans le sens où on ne parle pas effectivement de la répartition derrière. Donc ça, c'est clair. Il y a l'apparition d'un cercle 1 très numérisé qui est très lié à l'économie d'innovation qui va, je dirais, en quelque sorte en tirer profit. À la fois sur la part salariale, mais aussi sur les revenus du capital, car les très très riches sont aussi investisseurs en capital risque, etc. Au niveau médian, en fonction du degré d'automatisation des métiers, on va avoir une plus ou moins grande variation salariale, avec un risque de diminution de salaire, évidemment, pour les tâches extrêmement automatisées. Et on va avoir l'apparition d'une pléthore de jobs, de mini-jobs, qui sont en fait la création indirecte de d'emplois. Hein. L'exemple allemand, l'exemple du postier qui va avoir un métier transféré vers la livraison de colis et service à la personne. Ça, cette base d'emploi va augmenter, mais ils sont très très faiblement rémunérés. Donc, au final, si même on a une petite hausse progressive des salaires sur un long train, quelque part, les inégalités s'accroissent, les coefficients de Gini, c'est le vilain mot des économistes, oui. L'attestent. Et ça s'est pas amélioré en France non plus, d'ailleurs, l'année dernière. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord également avec ce qu'on a dit.
Alors, justement, Dany Lang, oui, vous voulez réagir ?
Non, mais ce que je voulais aussi rajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pascal de Lima. Après, on peut aussi compléter en disant que si vraiment le gouvernement voulait faire quelque chose à ce propos-là, ben, il suffirait de revenir à ce qu'on faisait très bien jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire faire en sorte que la revalorisation salariale suive les gains de productivité. La France a été le pays qui a le mieux tenu. On a arrêté en 2007. Si vraiment on veut que l'inflation n'ait aucune incidence sur le pouvoir d'achat, il faut augmenter les salaires au niveau des gains de productivité.
Justement, Dany Lang, on a parlé des salariés, mais je vais vous faire rebondir sur les retraités. 0,3% de revalorisation des retraites, ben avec 2,3% d'inflation, il n'y a pas besoin d'être excellent en mathématiques ou excellent en économie, c'est 2% de perte de pouvoir d'achat pour les retraités.
Oui, personnellement, avec les économistes atterrés, on avait écrit une note qui s'appelle Emmanuel Macron, l'économie en marche arrière, pendant la campagne. On avait déjà évoqué cet aspect-là et on avait dit clairement qu'avec la hausse de la CSG, c'est principalement les retraités qui allaient payer. On a la hausse de la CSG, on a des revalorisations qui sont faibles. C'est un choix politique. Personnellement, je trouve que ça n'est pas un choix souhaitable, ni même acceptable. Mais c'est un choix politique. Emmanuel Macron ne les a pas pris par surprise. Ils perdent en pouvoir d'achat.
Et justement, Pascal de Lima, est-ce que l'inflation ne va pas donner un coup de mou à la consommation, puisque les gens ne peuvent plus consommer, comme ils perdent 2% par exemple de pouvoir d'achat pour les retraités?
Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. L'impact est causal et direct. Hein. Les prix à la consommation sur un trimestre, on voit, l'indice des prix a augmenté. Donc là, effectivement, c'est d'autant plus inquiétant, si vous voulez, c'est qu'on voit un certain nombre de pays qui réussissent. Je pense, alors c'est un exemple qui est très cité, j'en viens d'ailleurs, c'est le Portugal où précisément on a fait une politique
de demande. Vous connaissez bien, il me semble.
Voilà, où on a développé justement tout un système d'aide sociale assez intensif pour justement compléter toutes les politiques d'austérité qui avaient été menées jusqu'alors, et ça a excellemment bien marché. Donc je pense que en France, on pourrait aussi combiner un peu ces deux choses-là. Alors, ce ne sont que des idées d'une certaine façon, mais sur le terrain économique, le fait qu'aujourd'hui, en 2018, on soit encore en train de tirer à fond sur l'offre sans imaginer deux minutes qu'il peut y avoir une crise de surproduction interne si en face, il n'y a pas de demande, si vous voulez, c'est inquiétant dans un contexte de découplage aussi entre la productivité et les salaires.
Voilà. Justement, oui, je suis totalement d'accord. Si je peux intervenir, le Portugal est aujourd'hui proche du plein emploi. Il avait commencé des politiques d'austérité.
Il a fait tout le contraire de ce que disait la Commission européenne, soit dit en passant.
Exactement, mais ce faisant, il est rentré dans les clous au niveau du déficit et de la dette.
Vous savez
pourquoi ? Ils ont augmenté le salaire minimum, et d'ailleurs les employeurs là-bas réclamaient cette hausse du salaire minimum. Ils ont augmenté les pensions, ils ont augmenté les retraites. Alors il y a des aspects plus néolibéraux dans leur politique, mais quand même, aujourd'hui ils sont plein emploi, alors qu'ils ont augmenté le pouvoir d'achat. Et donc c'est un exemple extrêmement intéressant pour montrer que en augmentant les salaires, en augmentant les pensions, en jouant sur la demande interne, on peut arriver au plein emploi. C'est ce que je voulais quand même préciser, c'est qu'en France, le principal moteur de la croissance, c'est la consommation. Et ce qui m'inquiète beaucoup dans ce qui est en train de se produire, en particulier pour les retraités, en particulier pour les gens en bas de l'échelle des salaires, c'est qu'on va avoir effectivement une perte de pouvoir d'achat, et au-delà des difficultés personnelles que ça peut engendrer, ça peut avoir des effets négatifs sur la consommation, qui est le principal moteur de notre activité économique.
Pascal de Lima, allez, en 45 secondes, il y avait un certain Jacques Chirac qui disait, en 95, c'était il y a un peu plus de 20 ans, la fiche de paye n'est pas l'ennemi de l'emploi. Est-ce que finalement, c'est pas la preuve aujourd'hui qu'avec l'inflation qui repart, la fiche de paye ou la fiche de retraite ou la fiche de RSA ne serait pas l'ennemi de l'emploi?
C'est pas tout à fait la même période, mais je dirais que c'est vrai que aujourd'hui les métiers vont changer énormément. De toute façon, on est dans un bouleversement et une transformation économique telle qu'on peut plus tellement considérer les vieux antagonismes économiques, idéologiques, etc. Et qu'il va falloir mixer un peu l'ensemble pour pouvoir trouver un consensus social, quoi.
Merci beaucoup Pascal Delima, économiste. Merci beaucoup Dany Lang, économiste atterré, d'avoir participé à cette émission. Et bien, pour ce qui est de l'avenir du pouvoir d'achat en France, et bien, comme dirait le proverbe, l'avenir nous le dira. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 12h26 passées de 17 secondes. On se retrouve dans quelques instants.